Du 19 au 26 août, venez faire le tour du monde en images à bord des 39e rencontres cinéma de Jindou. D'archives en avant-première, de courts en long métrage, de documentaires ou de fiction, venez vagabonder sur grand écran en compagnie de l'invité d'honneur de cette édition, Régine Vial, directrice de distribution des films du Losange. Du 19 au 26 août, les 39e rencontres cinéma de Jindou n'attendent plus que vous. Bonjour et bienvenue aux 39e rencontres cinéma de Jindou. La semaine se poursuit et les rencontres et discussions s'enrichissent des films vus ici. Et la discussion que je vous propose d'écouter aujourd'hui se fera en compagnie de Régine Vial, invitée d'honneur de cette semaine. Jindou Cinéma lui a offert une carte blanche durant laquelle nous verrons quelques films qu'elle a distribués avec les films du Losange, l'occasion de revenir sur son travail de distributrice, mais aussi de parler des compagnons de route de Régine Vial, comme Eric Rohmer, Jean-Claude Brissot, Michael Haneke, Barbe Schrader ou encore Lars von Trier et d'autres encore. Mais avant de vous livrer cette conversation, je tiens à remercier Régine Vial pour la sincérité de ses paroles, la générosité de son regard sur le cinéma et pour l'amour qu'elle a pour lui. Un amour que vous pourrez lire à travers les mots de cette interview. Je suis en compagnie de Régine Vial au 39e Rencontre Cinéma de Jindou. Bonjour Régine.
Bonjour.
Alors, on se voit ensemble ici dans le cadre d'une carte blanche qui vous est offerte. Une carte blanche qui revient sur votre travail auprès des films du Losange en tant que distributrice. Par quoi commencer ? Est-ce qu'on commence par la distribution ? Ou présenter rapidement les films du Losange pour ceux qui ne connaîtraient pas, et un bref petit historique.
On peut faire les deux, parce que les deux s'emboîtent. Donc les films du Losange, c'est une maison d'auteur qui a été créée par Barbe Schrader quand il avait 19 ans pour produire les films de quelqu'un qu'il admirait et que vous connaissez tous, qui est Eric Rohmer. Et donc, ce jeune homme a mis en gage un tableau et avec ça, avec cet argent, ils ont fait leur premier film qui était La boulangère de Monceau, qui ne coûtait pas très cher puisqu'ils ont aussi, en créant les films du Losange, expérimenté et inventé un peu les théories qui étaient développées au cahier du cinéma, c'est-à-dire de faire un cinéma différent, un cinéma qui est dans la vie, un cinéma où le son prend le bruit, des pas, de la rue, des gens, on a le droit de filmer dans la rue, on ne filme plus qu'en studio, ce mouvement qui s'appelait la Nouvelle Vague et sur lequel tous les films que l'on aime, beaucoup de films que l'on aime, en tout cas Truffaut, films de Rohmer bien sûr, Rivette, Stache, beaucoup de cinéastes ont emboîté le pas. Et donc le Losange a été cette maison de production au début par ce très jeune homme, Barbe Schrader, et ce réalisateur un peu plus âgé qu'était Eric Rohmer, qui ont fait Manu chez Maud, Le Genou de Claire et tous ses premiers films de Rohmer, jusqu'au film de Barbe Schrader, son premier film qui est mort. Je pense que pour certains, il rappelle beaucoup de choses, puisque c'était le film d'un jeune homme de cette fois 28-30 ans, puisqu'il quelques années avaient passé, qu'il a tourné à Ibiza, et sur lequel, non seulement il me dit toujours « j'ai découvert Eric Rohmer », mais il a aussi découvert les Pink Floyd, puisque toute la musique de son film, « Mort », c'est les Pink Floyd, un film tout à fait de son époque, puisque c'est un film sur les premières expériences de la drogue, de Ibiza, de toute cette jeunesse des années 70 avec les courants, les modes de vie qui étaient les leurs. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire que le cinéma à cette époque était plus libre ?
En tout cas, le cinéma avec eux est devenu libre. Déjà, il est devenu libre d'un carcan de tournage, avec un tournage en studio, avec des choses lourdes, des caméras. Quand ils ont fait La collectionneuse, ils ont loué une maison, ils tournaient dans la maison, ils dormaient dans la maison, ils mangeaient dans la maison. Barbe Schrader raconte souvent qu'il faisait très mal à manger, que les gens avaient vraiment ras-le-bol de toujours manger la même chose. Mais oui, bien sûr, le cinéma est devenu plus libre, libre aussi dans ses sujets. Parce que Mort, c'est quand même un film sur la drogue, sur les essais sur la drogue, qu'est-ce qu'elle provoque à ces jeunes gens. C'est un film qui a été le film d'une génération. Hein. Rohmer aussi. Alors c'était des films, curieusement, par exemple, j'ai revu La collectionneuse, je revois souvent, mais il y a quelques années, j'ai regardé Le visa d'exploitation et le film était interdit au moins de 18 ans. Ce qui est drôle, interdire un film de Rohmer au moins de 18 ans, mais ça l'était. Donc j'ai fait repasser en commission de classification. Bien sûr, maintenant, il n'a plus d'interdiction. Mais donc, ils ont fait un cinéma, oui, qui était libre, oui, oui.
Libre dans...
Godard, évidemment, Bout de souffle, enfin, tout ça faisait partie de la même génération.
Oui, libre dans sa manière de traiter le sujet, j'ai envie de dire, un peu moins lissé que peut-être ce qu'on peut voir aujourd'hui.
Oui, dans la rue, prendre les gens. Par exemple, Romère m'a toujours dit, il veut filmer les gens qui sortent du métro. Quand il a tourné Contes d'été, il n'y a pas si longtemps, enfin, tout de même, le temps passe vite, mais en 95, par exemple, il tournait sur la plage à Dinard. Et alors, il tournait, personne ne savait que c'était Romère. Il disait qu'il s'appelait d'un nom tout à fait banal et qu'il faisait un film pour France 3. Et évidemment, un film pour France 3 n'intéresse personne. Donc, les gens étaient sur leurs serviettes, allaient se baigner. Et il a tourné avec Melville Poupeau et ses comédiens au milieu de la plage. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce que, je vous raconte, parce que finalement, la vie est faite d'anecdotes. Romère avait une peau très, très sensible au soleil. Donc, il mettait beaucoup de pommades et de chapeaux, etc. Et donc, les gens étaient quand même très intrigués par ce grand personnage tout maigre qui était là au milieu. Et un jour, il y a quand même un baigneur qui a dit « Mais je crois que c'est Éric Romère ». J'ai dit « Non, non ». Donc voilà, donc c'était un jeu aussi de faire des films avec les moyens qu'ils avaient. Et l'inspiration et l'entreprise, la joie de faire les films étaient toujours le premier moteur.
Et alors, et vous, votre arrivée dans le Losange, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous y a amené? Est-ce que vous avez commencé par d'abord enseigner?
Oui.
Après, vous étiez exploitante de salle.
C'est ça.
Et un jour, vous voilà au Losange.
Voilà. Donc, j'aime beaucoup être professeure. Je crois que j'avais une vraie vocation pour ça. J'aime beaucoup les jeunes et transmettre. Et puis, j'ai fait un club théâtre avec mes élèves, des films. Et de fil en aiguille, je me suis occupée d'une salle à réessai à Saint-Étienne qui s'appelait Le France. Et un jour, Éric Romère et Margaret Ménégoz, qui dirigeaient le Losange, voulaient créer une distribution parce qu'en fait, ils voulaient accompagner les films qu'ils produisaient jusqu'aux yeux des spectateurs et jusqu'à la salle. Garder ce lien et continuer jusqu'au bout de la chaîne et même au-delà. Ensuite, pour travailler les films, les vendre à la télévision. Et maintenant, aujourd'hui aussi, on vend les films à l'étranger. Et donc, je suis arrivée chez eux, jeune fille de province, je ne connaissais rien, en juin 86, et ils m'ont ouvert la porte. Et j'ai, avec leur aide bien sûr, commencé la distribution au film du Losange. Le premier film qu'on a distribué, c'était un film de Romère qui s'appelle « Quatre aventures de Renette et Mirabelle ». Et Romère m'a dit « Vous savez, Régine, il faut être très modeste, ce ne sont que quatre courts-métrages, donc on va les présenter au Festival de Clermont-Ferrand, et on les a présentés là-bas ». Et on est sorti en février 86 et le film a très bien marché parce qu'il est malicieux et charmant et très bien écrit comme les films de Romère.
Alors, cette manière de... Enfin, on va parler de la distribution du film, mais en tout cas, en tant qu'exploitante de salle de cinéma, vous connaissez déjà un petit peu plus ou moins ce milieu et vous aviez déjà rencontré des distributeurs, j'imagine, à l'époque ou pas?
Oui, j'avais rencontré des distributeurs parce que j'ai passé aussi quelques mois après chez Gaumont, comme je vous avais expliqué. Donc oui, j'avais rencontré des distributeurs. Après, avec Romère, je ne me suis mis aucun modèle. J'ai essayé de l'écouter, de l'entendre, de voir où ils avaient besoin de moi. Et j'ai compris en fait qu'il avait besoin de travailler près de moi, d'être auprès de son film. Donc on faisait ensemble l'affiche, les bandes-annonces, les dossiers de presse. Je montrais tout, le choix des photos. Il était très attaché à ce que les films restent très longtemps dans les salles. Donc il me disait toujours, je préfère être grand chez les petits que tout petit chez les grands. Et je pense que j'ai été beaucoup jugée sur le fait que ma capacité à ce que les salles que je choisissais gardaient les films. Ma tâche n'était pas très difficile puisque ces films marchaient plutôt bien. Donc les exploitants les gardaient et étaient heureux de les garder. Et j'ai travaillé beaucoup. J'ai travaillé aussi sur le catalogue de Romère, parce que l'idée, c'était aussi de travailler sur les films d'avant, sur Perceval le Gallois, sur les comédies et proverbes qui étaient déjà sortis, sur Ma nuit chez Maud, Le genou de Claire, les montrer, les remontrer. Il était très attaché à ce que ces films vivent.
On parle de choix de salle quand on organise la distribution d'un film, de choix de bande-annonce, de choix d'affiche. Est-ce qu'il y a des souvenirs comme ça à raconter sur la conception d'une bande-annonce avant qu'on parle un petit peu de cet objet qu'est la bande-annonce?
Oui, je pense que j'ai une histoire amusante sur une bande-annonce. C'est avec Michael Haneke. Donc Michael Haneke, c'est beaucoup plus tard. Et là, cette anecdote, elle est sur Caché. Ce soir, je vais le présenter en séance itinérante. Et donc, c'est un film avec Daniel Auteuil et Juliette Binoche. Et d'ailleurs, alors, sur ce film, il y a deux histoires amusantes. C'est que la première, si les auditeurs, je ne peux pas vous montrer l'affiche, mais si vous avez l'occasion de la regarder, vous verrez, elle est très, très conceptuelle. Et ça, Haneke adorait ça. Mais quand même, les agents m'ont dit, mais quand même, on a Daniel Auteuil et Juliette Binoche. Et vous verrez, c'est une affiche blanche avec une tache rouge au milieu. Et avec, évidemment, le nom des acteurs en très gros. Mais on a choisi de faire très différent, de jouer plutôt le mystère que de jouer une affiche beaucoup plus traditionnelle. Et sur Caché, Michael Haneke avait fait une bande-annonce qui était tout à fait bien, mais le film avait quelque chose en lui qui était de l'ordre du thriller. Et je dis à Haneke, qui quand même est quelqu'un de très, qui dit souvent non, qui a ses propres idées et qui n'est pas toujours ouvert aux idées extérieures et qui veut qu'on soit extrêmement rigoureux sur son travail, sur ce qu'il veut, sur ses films. Et je lui dis, écoutez, Michael, quand même, j'aimerais bien vous faire une proposition. C'est important, je pense que le film peut marcher, qu'on peut peut-être trouver une approche un peu plus facile. Donc, je n'y suis pas allée avec des mots de marketing, comme on fait aujourd'hui. J'y suis allée avec beaucoup de stratégie, de gentillesse. Et donc, je lui dis, écoutez, on a travaillé, j'aimerais bien vous montrer une bande-annonce. Et il voit une bande-annonce qu'on avait fait et qui effectivement joue beaucoup plus sur le mystère, sur le thriller. C'est vraiment une bande-annonce de thriller où l'histoire, c'est comme Daniel Auteuil reçoit des cassettes chez lui. Quelqu'un envoie des cassettes avec sur ces cassettes des photos bizarres, des messages bizarres, et il ne sait pas d'où viennent ces cassettes. Donc il y a quand même un mystère très intrigant, et plus il reçoit, plus le mystère se précise. Et donc, il a vu une bande-annonce que je vais montrer quand on mixait dans un studio de mixage, extrêmement intrigante et très coupée dans les plans, alors que Caché est un film qui est beaucoup plus... Haneke travaille beaucoup avec des plans-séquences, donc c'était un peu différent de son film, et puis avec des effets spéciaux, pas de musique extérieure, parce que ça, il aurait refusé une musique qui ne soit pas de son film, mais des bruits extérieurs, etc. Et il est sorti, et il m'a dit... Écoutez, c'est pas mon film, mais alors j'ai envie d'aller voir ce film. Il me dit, faites comme vous voulez. Alors on a pris cette bande-annonce et le film a très bien marché. Alors je dis pas que c'est la bande-annonce, c'est le film évidemment qui a marché. Le film avait gagné le prix de la meilleure mise en scène à Cannes. Mais quand même, c'était une façon quand même qui a permis que le film peut-être aille un petit peu plus loin que là il aurait été, qu'il touche d'autres spectateurs.
La conception de cet objet, la bande-annonce aussi, j'imagine, au fil de votre carrière, ça a évolué dans sa durée, dans son format, dans les choses qui s'y mettent. Et en plus, j'entends dans ce que vous me dites, non seulement qu'il faut l'adapter avec les réalisateurs, mais aussi avec les agents des comédiens qui sont présents dans le film.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a... Oui, c'est normal, parce que les acteurs, si vous voulez, ils ont des contrats. Donc, ils ont des contrats et on doit respecter sur l'affiche et sur la bande-annonce la présence de leur nom. Et puis, les films du Losange, et ça, c'est Margaret et Romère qui me l'ont beaucoup appris. Les artistes qui travaillent avec nous, les auteurs, les acteurs, on a toujours montré le matériel que l'on fait sur les films, on l'a fait ensemble, on leur a soumis jusqu'à validation. Quelquefois, ça prend du temps de demander l'accord de tout le monde et une validation, une approbation. Quelquefois, ils ne sont pas d'accord, il faut corriger, il faut revoir, c'est plus de tracas pour nous. Mais à chaque fois, on a essayé de toujours, en tout cas, informer et toujours avoir travaillé avec les personnes. Je disais hier dans la discussion, et ça c'est très vrai avec les auteurs, on ne peut jamais imposer quelque chose, on ne peut que convaincre. Donc convaincre, c'est prouver que ce qu'on essaie de proposer est bien, mais ce n'est jamais par l'autorité qu'on y arrive, mais plus par une confiance. Mais cette confiance, avec tous les metteurs en scène qu'on a travaillé, au fond, j'ai aussi appris qu'elle n'est jamais acquise et qu'elle se gagne tous les jours. Vous pouvez travailler des années avec quelqu'un, et c'est ce qui rend ce travail difficile. vous pouvez très vite chuter sur une chose et perdre cette confiance. Et pour ça que cette amitié, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler.
Cette mise en confiance, et j'ai envie de dire aussi, il y a une adaptabilité. Il faut savoir s'adapter à la manière de faire de chaque réalisateur, de chaque film. Il n'y aura jamais deux films qui seront accompagnés ou distribués de la même manière, du coup.
Mais c'est ça qui est formidable, parce que on peut me dire, j'ai distribué beaucoup de films, vous vous ennuyez pas ? Parce que un peu toujours pas. Jamais je me suis ennuyée, jamais. Jamais, parce que chaque film est différent, chaque histoire est différente. Quand ce matin je monte Viviane Amsalem, je suis très touchée à Jindou de voir les spectateurs sortir, les spectatrices, et me dire à quel point ils sont touchés par le film. Donc travailler avec Ronit et Shlomi Elkabetz, ou travailler avec Jean-Claude Brissot ou Romer ou Alice Diop l'année dernière, Pacifiction, Albert Serra, à chaque fois je travaille avec un artiste différent, un réalisateur différent, donc c'est différent, il faut comprendre comment il marche, comment il progresse, où sont ses angoisses, où sont ses certitudes. Puis il faut que je comprenne le film aussi. Pour comprendre un film, il faut le voir beaucoup de fois. Il faut le faire sien. Il faut en connaître sa force, ses faiblesses. Il faut être heureux d'une parole. Il faut pouvoir porter une parole sur un film. Ça, je trouve que c'est hyper important. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de publicité et de marketing. Mais je pense que ce qui est beau, c'est d'avoir la parole.
Dans ces films, voilà, qui sont accompagnés, alors, vous me dites qu'il faut voir beaucoup de fois le film, mais aussi le travail, des fois, il commence avant même que le film il ait été commencé. Des fois, dès l'idée du film, vous commencez à l'accompagner.
Oui, alors, il y a deux choses. Il y a une chose qui est qu'au Los Angeles, en fait, même si les films d'un auteur ne marchent pas, on fait celui d'après. C'est-à-dire qu'on disait toujours, on ne dépense pas trop, on fait attention. Parce que ça peut toujours ne pas marcher. Ça peut marcher, en fait, pour que ça marche, mais ça peut ne pas marcher. Donc, il ne faut pas se mettre en risque. On est une maison indépendante, on veut être fidèle. Donc, en fait, essayons de faire bien ce qu'on doit faire, mais si ça ne marche pas, faisons attention pour que le film d'après, on puisse le faire. Donc, en fait, le film d'après... D'ailleurs, si un film ne marchait pas, on le faisait très vite pour oublier que ça n'avait pas marché. Et souvent, c'est cette persévérance aussi qui a fait le succès. Par exemple, Romer, sur les comédies et proverbes, La femme de l'aviateur n'a pas du tout marché. Le bon mariage, beaucoup mieux. La femme de l'aviateur, 30 000. Le bon mariage, 70 000 entrées. Et Pauline à la plage, 110. Et après Les nuits de la pleine lune, 450. Donc en fait, c'est l'obstination qui paye. Mais il faut avoir la capacité d'être obstiné, de tenir dans le temps. Et ça, cette capacité... on l'a trouvé aussi dans une forme d'économie sur chacun des films. Et l'autre chose, donc quand on n'est pas producteur, quand je suis seulement distributrice, qui arrive souvent maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive très très tôt dans l'idée du film et dans le fait que l'on soit distributeur. On est au moment du scénario. Donc je lis des scénarios de réalisatrices et de réalisateurs sur lesquels j'ai envie de travailler. Je pense que je me détermine beaucoup par l'histoire, mais aussi beaucoup par celui ou celle qui fait le film. Parce que c'est quand même une histoire de famille et d'un certain cinéma que moi j'aime, qui est un cinéma d'auteur, avec tout le sens et toute la noblesse du mot, c'est-à-dire un cinéma qui raconte des histoires, qui parle du monde, qui parle des êtres humains, et qui ont une certaine forme originale pour la raconter. Et donc on s'engage dès le scénario, passe un contrat, on donne de l'argent. Et souvent, c'est grâce au distributeur que le producteur trouve des financements. Canal+, des chaînes, parce que ça donne confiance. On est un investisseur privé, ça donne confiance aussi aux partenaires que le film va bien être exposé. Même les régions, des régions qui investissent beaucoup maintenant dans le cinéma, parce que aussi ça montre des paysages, ça fait vivre des régions, des hôtels, des restaurants, des gens, du personnel qui travaille sur les tournages. Ils ont envie que le film sorte bien, qu'il soit bien mis en valeur. Et donc, c'est très important qu'un distributeur soit là dès le début. Et ensuite, on intervient au montage. Et puis, il faut quand même, sur chacun des films, travailler de 4 à 6 mois pour bien travailler.
Là, on vient de parler un peu aussi du producteur. Or, j'imagine, ça a dû arriver dans votre parcours, que le réalisateur imagine une distribution pour un film, et le producteur, lui, comme c'est lui un peu qui va financer, pour dire ça très rapidement, imagine tout autre chose. Ça vous est arrivé, ce genre de situation?
Oui, ça m'est arrivé. Après, il y a deux choses. Évidemment, quand on n'a pas les moyens d'acheter un film très cher, être indépendant, c'est aussi savoir renoncer. Donc j'ai renoncé à des films que j'aurais aimé distribuer, oui, bien sûr. Mais j'en suis pas triste, parce que je me suis toujours dit que j'avais tant à faire de belles choses à côté et qu'on ne peut pas tout faire, donc c'est comme ça. Mais par contre, sur les combinaisons de sorties, sur où est le film, quel public il va toucher, je bataille beaucoup avec les producteurs pour plaider ma cause et ma vision de comment je vois ce chemin que doit prendre le film pour aller vers le public. Parce que je pense que aujourd'hui, par exemple, quand je dis qu'il faut beaucoup de temps pour travailler un film, je pense qu'un film, quand il sort, il ne doit pas être vu, il doit être reconnu. Donc on ne doit pas voir l'affiche. Quand on voit l'affiche, on doit dire « Ah, c'est ce film-là que j'ai entendu dire qu'il est bien ». Par exemple, quand on avait travaillé Très à voir avec Nicolas Philibert, on a fait des avant-premières tout l'été partout, peut-être même à Jindou ici. La France, on avait fait 10 000 entrées payantes avant que le film sorte. Et quand les affiches sont sorties, ou les moments de la sortie, les gens savaient déjà ce que c'était Être et avoir. Et donc, ils sont allés voir un film qui était déjà connu. Et le film a très bien marché. Enfin, voilà. Donc, c'est ce travail-là qu'il faut faire. Et puis, ce travail aussi qu'on fait beaucoup, alors, au film du Losange, auquel je suis très attachée, c'est d'aller chercher des publics qui concernent le film tout particulièrement, qui sont comme les premiers publics. Donc, par exemple, si j'ai un film allemand, par exemple le film de Christian Petzold ou les films de Wim Wenders, ben, je vais essayer d'aller chercher tous ceux qui travaillent l'allemand, les germanophiles, les germanophones, mais aussi tous les professeurs d'allemand, les étudiants qui font de l'allemand, qui s'y intéressent. Et ça crée une petite communauté. Et déjà, ça fait du monde les premiers jours, et puis ce sont des spectateurs comme les autres. S'ils aiment le film, ils en parlent, et tout ça crée du bouche à oreille. En fait, je crois assez peu à la publicité, à l'argent. Je crois beaucoup au travail. Mais ça, c'est plutôt ma nature optimiste.
Mais alors, on parle de cinéma qui serait diffusé. Alors, c'est peut-être un peu maladroit la manière de dire ça, diffusé de manière communautaire par des personnes qui seraient intéressées. Mais pour amener le cinéma d'auteur un peu plus loin, vers les personnes qui ne seraient pas intéressées, comment on pourrait faire?
Mais c'est ce qu'on fait. Je pense que les amener aux premières personnes qui sont touchées font qu'il va plus loin. Moi, j'essaie toujours, je travaille pour que des films exigeants soient vus du plus grand nombre. Il y a des films, j'ai beaucoup de films qui n'ont pas marché, mais j'ai des films qui ont marché. Par exemple, je sais pas, un film comme Festen, on a fait 700 000 entrées. Récemment, on a travaillé, par exemple, le film de Nicolas Philibert sur l'Adamant. C'est pas un film très facile. Il fait plus de 150 000 entrées. C'est absolument magnifique. Alors, il a eu l'Ours d'Or, mais on s'est battu pour qu'il aille en compétition à Berlin, âprement, avec le directeur du festival. On a voulu la marche la plus haute. Et puis, à Berlin, le jury a vu un film qui était différent des autres. Et même Kristen Stewart, je crois qu'elle a dit, la présidente du jury, que jamais, en Amérique, ce film aurait pu se faire. Et je trouve que c'est formidable. Et c'est cette différence qui a fait sa force. Et aujourd'hui, ben, sur l'Adamant, c'est un metteur en scène qui se déplace dans toute la France, sur tous ses films. Il est récompensé de tout ça aussi et de ce travail qu'il a fait toute sa vie comme un artisan. Le cinéma, c'est une industrie, c'est aussi un artisanat. Et je pense que beaucoup de mes auteurs aussi font des films comme des artisans, c'est-à-dire qu'ils font un peu tout de A à Z, mais ils aiment ça. Et puis la distribution, on choisit nos salles. Dans chaque ville, on choisit nos salles. À Toulouse, on a nos salles. Et c'est très important, vous savez, parce que j'ai vu sur tous mes films, si je me trompe de salle, je peux aller par exemple dans une salle très commerciale et faire 80 entrées et être dans une salle à réessai et en faire 500. Parce que mon public de mon film, il va dans cette salle, il sait le chemin de cette salle, mais il ne sait pas le chemin de l'autre salle et il ne sait pas aller dans l'autre salle pour voir ce type de film. Donc tout ça, il faut le faire avec quand même avec beaucoup de connaissances du terrain, d'un peu d'expérience aussi quand même avec les années, et d'écoute aussi, d'écoute du public. Par exemple, à Jindou, ça me plaît beaucoup d'écouter les gens. Les gens me parlent beaucoup. Et tout à l'heure, j'ai parlé à des gens de Marseille, dit comment vous trouvez Marseille aujourd'hui, les salles, ils m'ont parlé. Et j'apprends.
Il y a deux types de festivals là, qui ont été cités dans ce qu'ils viennent de se dire. Des festivals comme ici à Jindou où on va diffuser les films, on va pouvoir en discuter ensemble. Mais après, il y a des festivals comme celui de Berlin, comme le festival de Cannes, où il y a les prix qui sont décernés. Et je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur le rôle de ces prix dans votre travail de distributrice.
Ces prix sont fabuleux. C'est-à-dire que quand on est à Cannes, à Berlin, à Venise, dans les grands festivals, qui sont principalement ces trois grands festivals, mais surtout Cannes, évidemment, pour nous, d'abord y être en compétition, mais même pour un jeune auteur, y être, c'est très important. Très important. Et on a eu la chance au Losange d'avoir plusieurs films en compétition. L'année dernière, j'avais Pacifiction, par exemple, d'Albert Serra. Et ça a beaucoup aidé le film. On n'a pas eu de prix, mais ça a beaucoup quand même aidé le film dans sa célébration, dans la presse qui s'est emparée du film pour en faire un événement. Et quand même, ça a permis à Benoît Magimel d'avoir encore un César du meilleur acteur. Et nous avons eu trois palmes d'or pour Dancer in the Dark avec Lars von Trier et deux palmes d'or avec Michael Haneke. Donc le ruban blanc et ensuite Amour. Et Amour a aussi eu l'Oscar. Et Haneke, comme je vous disais, est un metteur en scène avec qui on a beaucoup travaillé, qui a beaucoup d'exigences, mais qui nous a emmenés très loin. Et effectivement, quand on a des films qui ont des prix comme la Palme d'Or, c'est non seulement plus facile de les sortir, parce que la Palme d'Or est un prix qui fédère beaucoup de public, de curiosité, puis ça change la vie des metteurs en scène, mais aussi à l'international. Parce que nos films d'auteurs, je dois dire, vous savez, souvent les gens me disent « Ah oui, mais par exemple, Romère, ça ne fait pas beaucoup d'entrées. » Faux. Romère fait beaucoup d'entrées, mais il fait aussi beaucoup d'entrées dans le monde. Ce que ne font pas les comédies commerciales. Romère, aux États-Unis, ça marche incroyablement. Haneke aussi. Les grands auteurs intéressent le monde entier. Amour est un film qui s'est vendu dans tous les pays du monde et qui a incroyablement marché sur une histoire dont, sur le scénario, tout le monde me disait « Mais qui va aller voir ça ?» Deux personnes âgées, en fin de vie, ça... Sauf qu'il y a eu ce miracle de Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva et cette magnifique direction de Haneke. Et donc, il ne faut jamais se dire que la facilité amène au succès. Je pense que c'est plus l'audace, l'originalité, la sincérité de ce qu'un auteur a à dire. La différence d'un film, il ne faut pas qu'un film ressemble à celui du voisin. Il faut qu'il soit singulier, original, fort, nouveau. Un peu ce qu'on a vu hier soir, ici, par exemple, avec le film de Radu Jud, que j'ai beaucoup aimé. Donc, il y a toujours à inventer. Et je pense qu'il faut faire... C'est pour ça que cette forme, elle ne peut pas être dictée par des plateformes ou par... Les plateformes peuvent diffuser, mais je pense que cette originalité, elle appartient profondément aux auteurs. Et quelquefois, d'ailleurs, les films rencontrent tellement l'air du temps qu'ils deviennent ces succès-là.
Il y a aussi une chose qui me paraît importante. J'ai l'impression de comprendre ça en filigrane dans tout ce que vous me dites. Vous parlez qu'il faut avoir de l'audace, des fois, pour pouvoir distribuer un film. Mais il y a aussi besoin d'amour. Vous m'avez dit mes auteurs, mes films. Un peu comme si... Vous étiez soit la maman d'une grande famille, la professeure d'une classe, en parlant de mes élèves. L'amour, c'est important. L'amour d'un film, il faut aimer un film pour bien le distribuer, pour bien le faire.
Ah oui, c'est la base de tout. De toute façon, si j'ai fait ce métier, c'est un métier où il faut énormément de l'amour. L'amour des films, l'amour des histoires. Ça, je pense que l'amour des histoires, c'est fabuleux. Et l'amour des auteurs. Moi, j'ai un très, très grand amour des auteurs et des autrices. Et c'est vrai que c'est un peu comme une famille. Je ne veux pas être... Mais je fais attention à chacun. Je pense que c'est important. Et j'essaie aussi, parce que les sorties de films, c'est une chose violente, parce que ça marche, des fois ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, un réalisateur, il est toujours inquiet. Est-ce qu'il va pouvoir faire un autre film? Parce que ce n'est pas sûr. Et j'essaie toujours d'accompagner ce moment-là. Et aussi de réfléchir maintenant, en prenant un peu d'âge, qu'un film fait partie d'un ensemble et qu'un film peut ne pas marcher, Mais comme je vous le disais, celui d'après peut très bien marcher. Par exemple, Guérody, avec qui je travaille, l'inconnu, j'ai fait des films qui ont pas marché, puis tout d'un coup, fait L'inconnu du lac, qui a énormément marché. Donc, il faut croire au talent de l'auteur, du réalisateur. Et il faut aimer, il ne faut pas lâcher, il faut s'accrocher, il faut continuer. C'est beaucoup, c'est de l'amour, c'est aussi de l'amitié, c'est beaucoup un compagnonnage. Moi, j'aime bien me dire que je suis compagnon de route. Des réalisateurs sur les films. Et puis, peut-être aussi avec le temps, faire toujours attention qu'il soit vu toujours et partout. Un film sur une étagère, c'est un film mort. Et pour qu'un film soit vivant, il faut qu'il soit sur un écran, il faut qu'il soit à la télévision, il faut qu'il soit en DVD, il faut qu'il soit sur une plateforme. Mais il faut toujours qu'un spectateur, un jeune homme, une jeune personne, puisse voir, puisse découvrir un film. Et demain, ils vont découvrir Breaking the Waves. Par exemple, là, je fais une rétrospective Lars von Trier. Plein de jeunes qui n'ont jamais vu Lars von Trier, parce que les générations se renouvellent vite. Et c'est important de faire découvrir des nouveaux réalisateurs et de faire revoir les grands films.
Oui, ça fait partie de notre patrimoine culturel, notre patrimoine du cinéma.
Oui, mais faut-il encore pouvoir les montrer, les voir, et qu'ils soient disponibles? Et c'est ce qu'on disait. C'est vrai que dans les salles de cinéma, c'est important qu'il y ait une diversité de programmation. C'est important aussi que les films d'auteurs puissent être présents suffisamment pour que les gens aient le temps de les voir. Il faut qu'il y ait un dispositif à l'image pour les écoles, pour amener les enfants devant les écrans. Je pense que c'est facile de voir des films pour les enfants. C'est toujours, on apprend plein de choses par les films, le droit, la différence. Je pense que même quelquefois, c'est plus facile que les livres de voir un film. Donc c'est une façon d'apprendre pour les jeunes qui est magnifique. Et donc, tout ça est très précieux. Et je pense que dans chaque petite ville, puisque ici on est à Jindou et qu'à Jindou ça existe, que cette chose-là, elle soit accessible à tous.
Alors, hélas, aujourd'hui, moi j'ai envie de dire, c'est un côté un peu sombre dans ce tableau, on parle de films qui soient visibles par tous. Alors, des multiplexes, des films comme pour les films de Nicolas Philibert, ont un peu moins de place qu'autrefois dans des salles qui étaient estampillées cinéma d'art et d'essai. Oui. Quelle est sa place aujourd'hui? Comment vous arrivez à distribuer les films aujourd'hui, ces films-là, dans ces multiplexes?
Alors, je pense qu'il y a, dans les grandes villes, il y a une possibilité que les multiplexes prennent des films de la diversité. Pas tous, mais ils en prennent. Il y a quelques contraintes de programmation. Mais c'est vrai que la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de films. Tous les mercredis, globalement, il y a 18 films qui sortent. Donc, ces 18 films doivent trouver de la place. Et bien évidemment, là, il y a une très grande inégalité. Un film comme, on parle de Barbie, par exemple, peut être sur 1200 écrans. Et un film, moi j'ai sorti La Bête dans la jungle la semaine dernière. Et parce qu'on est les films du Losange, on est quand même une maison connue. Et qui, disons, on sort nos films avec beaucoup d'écrans. Dans deux semaines, je sors Christian Petzold, par exemple, Le Ciel Rouge. Donc, c'est un film qui sort sur 150, 180 écrans. Donc, grâce à mon équipe, parce que j'ai une équipe qui travaille beaucoup, on arrive à placer les films dans les multiplexes, mais aussi beaucoup, notre contact privilégié, c'est bien entendu les exploitants indépendants. Et là, c'est vrai qu'il y a un travail qui est très, qu'on doit développer avec les exploitants indépendants, d'une collaboration, d'un lien qui doit être. Il y a des producteurs indépendants, des distributeurs indépendants et des exploitants indépendants. Et ce lien devrait être encore renforcé. Les salles indépendantes sont encore des lieux où on a, les bandes annonces sont gratuites, l'affichage est gratuit. Il faut savoir que dans les multiplexes, c'est différent. Quand vous voyez une bande annonce, c'est parce qu'un distributeur paye pour qu'elle passe. Alors nous, c'est parfois les nôtres, mais évidemment les plus riches, qui sont les majors, ont beaucoup plus de moyens que nous pour les promotions de films. Ils peuvent avoir 10 fois plus d'argent que nous. Donc cette publicité, évidemment, leur assure beaucoup de présence sur le territoire, beaucoup de notoriété. Et nous, avec notre travail et l'argent qu'on a, mais moindre, on doit batailler contre cela pour aussi que nos films soient présents et qu'ils existent.
Et avec les plateformes en plus, j'imagine, de diffusion et le téléchargement, illégal ou pas, on va dire, ça doit compliquer encore plus comme ça le maintien économique de cette activité.
Oui, alors le téléchargement est un problème. Donc nous, on travaille beaucoup pour surveiller le piratage. Par exemple, je sais que quand on a restauré Eustache, avant de commencer la restauration, tout Eustache était sur Internet. Donc on prend une société qui enlève tout ce qu'il y a de piraté de nos films sur Internet. C'est aussi quelque chose qu'on doit faire par rapport aux auteurs, de surveiller ça. Après, en France, on a quand même une chance concernant la chronologie des médias. C'est qu'elle est quand même discutée et elle est encadrée. C'est-à-dire qu'un film a 4 mois pour sortir en salle, ensuite il sort en vidéo, ensuite il va en pay TV, donc sur Canal+, et c'est ensuite qu'il pourra aller sur les plateformes qui ont accepté de participer à la création française. Donc disons que grâce aux syndicats, aux gens qui se battent, il y a une réglementation en France. Elle n'est pas, certainement pas parfaite, mais en tout cas, elle protège l'exploitant qui a quand même la priorité, la première fenêtre en quelque sorte. C'est lui qui fait naître le film sur son écran. Et c'est très important de conserver cela, bien sûr. Et on est dans un système français qui, grâce aussi au fonds de soutien, à beaucoup de choses, a permis que le cinéma français soit très vivant. Il y a aussi tout un secteur de recherche, il y a beaucoup de jeunes qui font des premiers films. Il y a un vivier de jeunes gens qui est formidable. On voit bien d'ailleurs les Palmes d'Or. On a eu 2 femmes qui ont eu la Palme d'Or. Donc ça raconte que notre cinéma est vivant, mais c'est beaucoup plus fragile dans certains autres pays.
On a de la chance quand même en France d'avoir tous ces réseaux de diffusion qui puissent exister.
Il y a 1200 salles à réessai en France. Et puis c'est vrai que ça fait du bien, moi je trouve, ça me fait du bien. Parce que oui, je vais à Cannes, je suis allée à Berlin, mais d'aller à Jindou, c'est génial. Parce que, encore une fois, je vois les salles pleines. Ils voient les films qui sont sortis il y a 30 ans ou les films d'aujourd'hui avec le même appétit. Ils sont touchés par des documentaires, par des fictions, par des films nouveaux. Ils ont la capacité d'accueillir. Je trouve les mots que j'entends sur les spectateurs de Jindou, c'est étonnant. Par exemple, hier, quelqu'un m'a dit « J'ai aimé mon expérience de voir le film de Radu Djoud, qui est un film assez long. » Et en fait, son bonheur, ça a aussi été cette expérience de cette longueur et de voir cette fille qui est coincée dans les embouteillages, etc. Et je trouve qu'ils ont tout compris. C'est-à-dire, les spectateurs, si on leur montre des grandes œuvres, en fait, ils ont des yeux pour voir. Et ça, ça donne confiance.
Est-ce qu'on peut dire que le cinéma qui diffuse des blockbusters aurait tendance à prendre le spectateur, pas pour des idiots, mais pour des personnes pas capables de comprendre ?
Je dirais qu'ils les prennent pour des consommateurs, quand même. Après, je pense qu'ils sont très bien accueillis.
Vous le dites mieux que moi.
Non. Mais je pense qu'il y a des blockbusters qui sont très bien. Je pense qu'il faut des blockbusters aussi pour alimenter un autre cinéma. C'est un cinéma de divertissement et c'est pas mon cinéma, mais je trouve très bien que ces films-là marchent. Et je pense que ça fait aussi partie, peut-être, d'une idée du cinéma populaire. Mais je pense qu'il faut donner... Malgré tout, on peut faire un cinéma populaire de très grande qualité, ce que certains font. Par exemple, là, on a passé Les Apprentis de Pierre Salvadori. Il y a plein de gens qui ont dit on a énormément ri. Donc, on peut rire avec des bons films. Voilà. Et certains blockbusters sont de très grande qualité. Mais juste, on est dans une autre forme de proposition. Je pense qu'on est plus dans quelque chose de plus industriel, quoi.
Il y a aussi un petit point que j'aurais aimé aborder, c'est le changement de support des films. La numérisation des films, ça a dû énormément changer votre travail de distribution. Quand on est passé des copies, maintenant avec des accès qui passent par Internet.
Oui, donc ça c'est arrivé en 2011. Alors avant, il y avait des copies 35. Alors le défaut des copies 35, c'est que c'était très lourd. Par exemple, quand j'avais Dogville de Lars von Trier, c'était 50 kilos. Alors, mais ça ralentissait la circulation des films. Donc les films restaient sans doute plus longtemps sur les écrans parce que c'était plus compliqué que d'envoyer un fichier dans un cinéma. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez, avec le numérique, vous envoyez votre fichier, vous appuyez sur un bouton, le fichier arrive dans le serveur du cinéma et c'est tout. et après on fait une clé, la clé ouvre pour c'est une serrure, elle ouvre pour une semaine et toutes les semaines on la refait. On n'a même pas à faire revenir le film, sauf quand on envoie encore un DCP physique, mais ça devient de plus en plus rare. Donc je pense que le numérique a beaucoup accéléré la vitesse de consommation des films et de rotation des films dans les salles, c'est le mot plus juste. Donc les films restent moins, ce qui est un souci pour nous parce que nos films à réessai, comme je vous le disais, ils ont besoin de bouche à oreille. Je crois pas que c'est vraiment, il faut de la pub bien entendu, mais ce qui fait vraiment du succès aux films, vivent les films, c'est le bouche à oreille. Et quand les films tiennent pas dans les salles, ils peuvent pas avoir de bouche à oreille. Donc ça a certainement nuit, nous, à nos films et à leur durée de vie. Après, il y a eu un deuxième problème, c'est que tous les films qui étaient tournés en 35 ne pouvaient plus être accessibles dans ces salles. Alors en France, on a encore une fois eu beaucoup de chance, puisque le CNC, les archives du film nous ont aidés dans la restauration, la numérisation et la restauration des films. Donc par exemple, tous les films de Romère qui étaient tournés en 35 mm ont pu être restaurés, numérisés. Tous les films que nous avons produits au Losange ont été restaurés en 2K et je peux les proposer, s'il y en a produit des films de Marguerite Duras, je peux les proposer en numérique à une salle de cinéma, mais aussi dans le monde entier en fait. Donc c'est bien, ça permet à notre patrimoine de vivre. Parce que si on ne fait pas ce travail, les films, ils vivent plus, quoi. Donc ça, c'est un vrai souci. Après, il y a beaucoup de réalisateurs qui, aujourd'hui, sont un peu malheureux du numérique. Alors, peut-être qu'ils ont une exigence qu'ils portent très haut, mais je l'entends. Ils trouvent que le numérique, c'est quelque chose d'assez rigide, d'assez froid, et il leur manque cette espèce de vie qu'il y avait dans la pellicule 35. Après, on peut aussi dire que pour le spectateur qui voyait des copies état 4 ou état 5, aujourd'hui, il subit plus les rayures, il n'y a plus tous les petits scratchs jaunes, les coupures, etc. Et qui faisait aussi le charme du 35. Et une dernière chose, je suis moins inquiète sur, par rapport au numérique, sur la conservation des films. Parce que c'est vrai que la pellicule, le négatif original, quand j'ai rouvert pour restaurer Ma nuit chez Maud 60 ans après, bah le négatif original, il n'avait pas bougé, le son non plus. Aujourd'hui, tous ces films tournés en numérique, comment on va les retrouver dans 60 ans? Comment on pourra les lire? Sur quel support? Avec quel ordinateur? Est-ce qu'il y aura toujours les mêmes outils? Je ne sais pas. Ça, c'est un souci.
Ça aura juste, on peut le dire, permis une réalisation plus souple pour les réalisateurs, en fait. Hein. Quand il y avait un peu moins de droits d'erreur à l'époque de la bande. Maintenant, on ne peut plus se permettre.
Oui, ça c'est vrai. D'ailleurs, Romère, quand il tournait, il était très économe sur la pellicule, qu'elle soit 16 ou 35. Il ne faisait qu'une prise. Et il fallait vraiment qu'elle soit ratée pour en faire une autre. Sinon, si une prise était bonne, on n'en faisait qu'une. Et je sais que sur Ma nuit chez Maud, c'est Trintignant qui racontait. Il fait une prise, c'était pas mal. Et il voulait la refaire parce qu'il pensait. Et Romère, il a dit non.
Alors, on va arriver vers la fin de notre échange. Je voudrais demander à vous poser une question sur les sujets qui sont diffusés. Alors, le choix de la carte blanche qu'on a vu ici, les sujets qui sont abordés dans les films, il y a quand même quelque chose d'assez militant, j'ai envie de dire, où il y a un amour pour le militantisme et pour les choses dites qui viennent de vous, j'ai l'impression.
Oui, parce que je pense que c'est très important. Aujourd'hui, je crois que les films parle du monde et parle des êtres humains, quand je dis raconte des histoires. Et je pense que les films, c'est connaître les autres. Finalement, on est seul. Moi, je pense que beaucoup de gens n'ont pas voyagé au Japon ou dans des endroits en Inde. Et connaître le cinéma indien, voir les films de Satyajit Ray, découvrir le cinéma japonais, c'est connaître les autres. Connaître les autres, c'est aussi comprendre. Et aussi, dans beaucoup de pays, essayer de faire changer ou en tout cas voir quelque chose, voir une difficulté, la faire changer. Je pense aujourd'hui, parce que quand on a travaillé avec Alice Diop ou Joachim Lafosse, par exemple, sur Alice Diop, c'était Saint-Omer et Joachim Lafosse, c'était à perdre la raison sur ce thème, par exemple, de l'infanticide. Essayer de comprendre comment quelqu'un une femme peut faire ça? Est-ce que c'est une criminelle ou c'est quelqu'un qui va si mal que dans sa folie, elle arrive à faire cet acte? Je pense que les films nous permettent de comprendre, d'aller plus loin, de bouger notre point de vue. Et c'est peut-être trop optimiste, mais de faire un petit peu changer les choses. Et ce matin, par exemple, je passais le film « Le procès de Vivian Amsalem » sur le divorce en Israël, donc, qui est fait par un tribunal religieux et cette femme qui va se battre pendant des années pour l'obtenir. Et effectivement, quand on l'a sortie, je suis toujours un peu trop optimiste. Anneke, lui, est pessimiste et il me dit que c'est les pessimistes qui ont raison. J'ai pensé que grâce à son énergie, à tout ce qu'elle faisait, peut-être qu'elle ferait peu bouger les choses. En fait, on ne les a pas fait bouger tant que ça, mais quand même que des yeux, autant d'yeux de spectateurs, aient vu cette histoire et aient conscience de ça, je pense que ça fait déjà quand même changer le monde, changer les opinions. Aujourd'hui, la place des femmes cinéastes, le travail que fait Mati Diop, que fait Alice Diop aussi sur les communautés, sur les afro-descendants. Je pense aussi sur... j'ai travaillé beaucoup avec Chloé Zhao, par exemple, sur les natifs américains, sur les Indiens dans ces réserves. Etc. Je pense que le cinéma fait prendre conscience aux autres, des autres. C'est déjà beaucoup, je trouve.
C'est déjà énorme. Et si ça peut nous permettre de faire changer un peu notre regard sur le monde, un qui se débrouille très bien pour faire ça, c'est Nicolas Philibert.
Voilà.
Quand il a été invité d'honneur cette année-là, il y a plein de monde que je n'ai pas regardé de la même manière en ressortant de cette édition-là.
C'est magnifique. Et je sais que, par exemple, même pour les enfants, pour leur montrer le pays des sourds, je pense qu'ils ne regarderont jamais un sourd de la même façon.
Je dirais, je n'ai plus jamais entendu personne de la même manière depuis que j'ai vu ce film. Je me suis rendu compte que je n'écoutais pas vraiment les gens avant.
Voilà. Et sur l'Adamant, j'ai reçu beaucoup de mails de spectateurs qui m'ont dit « Merci de m'avoir proposé ce film parce que j'ai eu le temps de regarder les autres. » Et en ce moment, je pense que c'est surtout dans les grandes villes et tout ça, mais même partout, je pense que le cinéma est aussi une façon facile d'arriver à cette chose qui est d'arriver vers les autres.
Alors et pour terminer, je vois qu'il y a des livres sur la table. Vous êtes passé par la librairie, alors vous qui aimez les mots et les auteurs. C'était quoi vos choix de cette librairie?
J'ai trouvé des livres, sur des auteurs que j'aime beaucoup. Et en fait, je ne les avais pas à Paris. Et donc, j'ai pris un livre sur Barbet Schroeder. J'ai pris un peu dans ma famille, mais comme à Jindou ici, je parle beaucoup de ça, donc je voulais me concentrer sur des choses faciles. Donc j'ai pris Barbet Schroeder, j'ai pris un livre de Jean Eustache, puisqu'on a ressorti l'année dernière La maman et la putain. Et puis Jean-Claude Brissot, que j'aimais beaucoup, et j'ai passé Debré de fureur ici à Jindou. Et l'émotion de revoir ce film que j'aime beaucoup sur des jeunes, sur l'école, sur le métier de professeur aussi, sur toutes ces choses qu'il raconte dans ce film, qui est un très grand film sur la banlieue. Ça m'a beaucoup touchée, les réactions des spectateurs de Jindou. Et j'ai eu envie de relire, j'ai eu un feuilleton, il y avait des choses très belles.
Alors moi, ce film, je tiens à vous dire, il m'a bouleversée. La séance de dimanche matin m'a bouleversée. Je devais faire une interview à midi, je l'ai décommandée. Non, je ne peux pas faire d'interview tout de suite. Et j'ai été me cacher dans un coin pour me re-questionner sur le monde.
C'est magnifique, vous voyez. Et vous voyez, tout ce que vous me dites, moi aussi, ça donne de la force et du courage. On ne fait pas les films tout seul, on les fait vraiment pour les autres.
Alors, est-ce qu'ils n'oseraient pas se lancer dans le cinéma, vous leur diriez quoi?
Si quelqu'un veut se lancer dans le cinéma.
Oui, dans un des métiers du cinéma, de l'exploitation de salles, à la réalisation, que sais-je.
Je dirais que c'est un métier formidable, que ça prend beaucoup de sa vie. Mais par exemple, ici, j'ai deux personnes qui ont travaillé avec moi. J'ai Sylvie Buscaille, qui est à Auch, qui dirige le cinéma de Auch merveilleusement. Elle a travaillé 2 ans avec moi à la distribution. On a travaillé avec elle sur des films de Godard. Et c'était magnifique. Et elle a eu envie de faire ce métier. Et Mathieu Berton, Météor Film, qui a présenté hier ce film que j'ai tant aimé de Radu, Jude, et qui en a parlé merveilleusement. Et je pense que c'est un métier formidable, c'est un métier d'édition, mais il y a aussi des tas de métiers, des métiers de la fabrication, des métiers de montage, des métiers de la réalisation, bien entendu. Je pense qu'il faut, il y a des moments difficiles, mais il y a des moments merveilleux. Je pense que la persévérance est très forte. Il en faut, il faut du temps, mais il faut y croire beaucoup. Et je pense que les portes s'ouvrent beaucoup. Il y a quand même 5 milieux pas du tout comme on imagine. Parfois, on pense que c'est un milieu de paillettes, mais ce n'est pas du tout ça. C'est un milieu, au fond, de gens très, très ouverts aux autres, très ouverts à la jeunesse, très ouverts à une forme de modernité, avec beaucoup de tolérance. Et je ne peux que les encourager. Il y a des très bonnes écoles de cinéma en France. Et on peut aussi ne pas faire d'école. Moi, je n'ai pas fait d'école de cinéma. Je pense qu'il faut y aller avec amour et aussi essayer de faire beaucoup de stages, pratiquement, quoi, un peu partout pour trouver sa place. Mais c'est un beau métier, c'est des beaux métiers.
Mais je crois que le mot a été dit, avec amour. Oui. Un mot qui est important à dire. Voilà. Aimer le monde pour qu'on aille mieux.
Voilà, oui, tout à fait. Vous en parlez très bien.
Mais merci beaucoup en tous les cas, Régine.
Merci, c'était tout à fait passionnant. Merci.
Merci beaucoup. Et donc, bon retour à vous, parce que vous partez bientôt d'ici. On vous verra présenter les films sur grand écran jusqu'à la fin de la semaine.
Voilà.
Et puis voilà, merci. Vivement merci.
Merci à vous.
Vous étiez en compagnie de Régine Vial, distributrice pour les films du Losange et invitée d'honneur de ces 39e rencontres cinéma de Jindou. Antenne Doc remercie Régine Vial pour cet échange sincère et généreux et nous lui souhaitons, à elle et tous les auteurs et les films qu'elle aime, de beaux jours devant eux.
Par exemple, à Jindou, ça me plaît beaucoup d'écouter les gens. Les gens me parlent beaucoup. Et tout à l'heure, j'ai parlé à des gens de Marseille. Ils m'ont dit comment vous trouvez Marseille aujourd'hui, les salles. Ils m'ont parlé. Et j'apprends. Oui, je vais à Cannes, je suis allée à Berlin. Mais d'aller à Jindou, c'est génial. Parce que, encore une fois, je vois les salles pleines. Ils voient les films qui sont sortis il y a 30 ans ou les films d'aujourd'hui avec le même appétit. Ils sont touchés par des documentaires, par des fictions, par des films nouveaux. Ils ont la capacité d'accueillir. Je trouve les mots que j'entends sur les spectateurs de Jindou, c'est étonnant. Par exemple, hier, quelqu'un m'a dit « J'ai aimé mon expérience de voir le film de Radu Jud, qui est un film assez long. » Et en fait, son bonheur, ça a aussi été cette expérience de cette longueur et de voir cette fille qui est coincée dans les embouteillages, etc. Et je trouve qu'ils ont tout compris. C'est-à-dire, les spectateurs, si on leur montre des grandes œuvres, en fait, ils ont des yeux pour voir. Et ça, ça donne confiance. Je pense que le cinéma fait prendre conscience aux autres, des autres. Les films nous permettent de comprendre, d'aller plus loin, de bouger notre point de vue. Et c'est peut-être trop optimiste, mais de faire un petit peu changer les choses. Le cinéma est aussi une façon facile d'arriver à cette chose qui est d'arriver vers les autres.
Du 19 au 26 août, venez faire le tour du monde en images à bord des 39e rencontres cinéma de Jindou. D'archives en avant-première, de courts en long métrage, de documentaires ou de fiction, venez vagabonder sur grand écran en compagnie de l'invité d'honneur de cette édition, Régine Vial, directrice de distribution des films du Losange. Du 19 au 26 août, les 39e rencontres cinéma de Jindou n'attendent plus que vous.